Chapitre 2. De l'art de la guerre chez les Romains. Les Romains se destinant à la guerre et la regardant comme le seul art, ils mirent tout leur esprit et toute leur pensée à le perfectionner. C'est sans doute un dieu, dit Végès, qui leur inspira la Légion. Ils les jugèrent qu'il fallait donner aux soldats de la Légion des armes offensives et défensives plus fortes et plus pesantes que celles de quelque autre peuple que ce fût. Mais, comme il y a des choses à faire dans la guerre dont un corps pesant n'est pas capable, ils voulurent que la Légion contînt dans son sein une troupe légère, qui pût en sortir pour engager le combat, et, si la nécessité l'exigeait, s'y retirer, qu'elle eût encore de la cavalerie, des hommes de trait et des frondeurs, pour poursuivre les fuyards, et achever la victoire, qu'elle fût défendue par toutes sortes de machines de guerre, qu'elle traînait avec elle, que, chaque fois, elle se retrancha et fut, comme dit Végès, une espèce de place de guerre. Pour qu'ils puissent avoir des armes plus pesantes que celles des autres hommes, il fallait qu'ils se rendissent plus comme. C'est ce qu'ils firent par un travail continuel qui augmentait leur force et par des exercices qui leur donnaient de l'adresse, laquelle n'est autre chose qu'une juste dispensation des forces que l'on a. Nous remarquons aujourd'hui que nos armées périssent beaucoup par le travail immodéré des soldats et, cependant, c'était par un travail immense que les Romains se conservaient. La raison en est, je crois, que leur fatigue était continuelle, au lieu que nos soldats passent sans cesse d'un travail extrême à une extrême oisiveté, ce qui est la chose du monde la plus propre à les faire périr. Il faut que je rapporte ici ce que les auteurs nous disent de l'éducation des soldats romains. On les accoutumait à aller le pas militaire, c'est-à-dire à faire en 5h 20 000 et quelquefois 24. Pendant ces marches, on leur faisait porter des poids de 60 livres. On les entretenait dans l'habitude de courir et de sauter tout armés. Ils prenaient, dans leurs exercices, des épées, des javelots, des flèches d'une pesanteur double des armes ordinaires, et ces exercices étaient continuels. Ce n'était pas seulement dans le camp qu'était l'école militaire. Il y avait dans la ville un lieu où les citoyens allaient s'exercer, c'était le Champ de Mars. Après le travail, ils se jetaient dans le Tibre pour s'entretenir dans l'habitude de nager et nettoyer la poussière et la sueur. Nous n'avons plus une juste idée des exercices du corps. Un homme qui s'y applique trop nous paraît méprisable, par la raison que la plupart de ces exercices n'ont plus d'autre objet que les agréments, au lieu que chez les anciens, tout, jusqu'à la danse, faisait partie de l'art militaire. Il est même arrivé parmi nous qu'une adresse trop recherchée dans l'usage des armes, dont nous nous servons à la guerre, est devenue ridicule, parce que depuis l'introduction de la coutume des combats singuliers, l'escrime a été regardée comme la science des querelleurs ou des poltrons. Ceux qui critiquent Homère de ce qui leur relève ordinairement dans ses héros la force, l'adresse ou l'agilité du corps, devraient trouver Salluste bien ridicule, qui loue Pompée de ce qu'il courait, sautait et portait un fardeau aussi bien qu'homme de son temps. Toutes les fois que les Romains se crurent en danger, ou qu'ils voulurent réparer quelques pertes, ce fut une pratique constante chez eux d'affermir la discipline militaire. Ainsi Bossuet, dans son discours sur l'histoire universelle, dit « La discipline militaire est la chose qui apparut la première dans leur état, et la dernière qui s'y est perdue, tant elle était attachée à la constitution de leur république. Ont-ils à faire la guerre aux Latins, peuple aussi aguerri qu'eux-mêmes ? Manlius songe à augmenter la force du commandement, et fait mourir son fils, qui avait vaincu sans son ordre. Sont-ils battus à Numance ? Scipion Émilien les prive d'abord de tout ce qui les avait amollis. Les légions romaines ont-elles passé sous le joug en Numidie ? Mettez-lui répare cette honte, dès qu'il leur a fait reprendre les institutions anciennes. Marius, pour battre les cimbres et les teutons, commence par détourner les fleuves, et s'il a fait si bien travailler les soldats de son armée, effrayés de la guerre contre Mithridate, qui lui demande le combat, comme la fin de leur peine. Publius Nasica, sans besoin, leur fit construire une armée navale, on craignait plus l'oisiveté que les ennemis. Olugel donne à ces mauvaises raisons de la coutume des Romains de faire saigner les soldats qui avaient commis quelques fautes. La vraie est que la force étant la principale qualité du soldat, c'était le dégrader que de l'affaiblir. Des hommes si endurcis étaient ordinairement sains. On ne remarque pas dans les auteurs que les armées romaines, qui faisaient la guerre en temps de climat, périssent beaucoup par les maladies, au lieu qu'il arrive presque continuellement aujourd'hui que des armées, sans avoir combattu, se fondent, pour ainsi dire, dans une campagne. Parmi nous, les désertions sont fréquentes, parce que les soldats sont la plus vile partie de chaque nation, et qu'il n'y en a aucune qui ait ou qui croit avoir un certain avantage sur les autres. Chez les Romains, elles étaient plus rares, des soldats tirés du sein d'un peuple si fier, si orgueilleux, si sûr de commander aux autres, ne pouvaient guère penser à s'avilir jusqu'à cesser d'être Romains. Comme leurs armées n'étaient pas nombreuses, il était aisé de pourvoir à leur subsistance. Le chef pouvait mieux les connaître, et voyait plus aisément les fautes et les violations de la discipline. La force de leurs exercices, les chemins admirables qu'ils avaient construits, les mettaient en état de faire des marches longues et rapides. Leur présence inopinée glaçait les esprits. Ils se montraient, surtout après un mauvais succès, dans le temps que leurs ennemis étaient dans cette négligence que donne la victoire. Dans nos combats d'aujourd'hui, un particulier n'a guère de confiance qu'en la multitude. Mais chaque Romain, plus robuste et plus aguerri que son ennemi, comptoit toujours sur lui-même. Il avait naturellement du courage, c'est-à-dire de cette vertu qui est le sentiment de ses propres forces. Leurs troupes étant toujours les mieux disciplinées, il était difficile que, dans le combat le plus malheureux, ils ne se ralliassent quelque part ou que le désordre ne se mit quelque part chez les ennemis. Aussi les voit-on continuellement, dans les histoires, quoique surmontés dans le commencement par le nombre ou par l'ardeur des ennemis, arracher enfin la victoire de leurs mains. Leur principale attention était d'examiner en quoi leur ennemi pouvait avoir de la supériorité sur eux, et d'abord ils y mettaient ordre. Ils s'accoutumèrent à voir le sang et les blessures dans les spectacles des gladiateurs qu'ils prirent des Étrusques. Les épées tranchantes des Gaulois, les éléphants de Pyrrhus, ne les surprirent qu'une fois. Ils suppléèrent à la faiblesse de leur cavalerie, d'abord, en ôtant les brides des chevaux, pour que l'impétuosité n'en pût être arrêtée. Ensuite, en y mêlant des vélites. Quand ils eurent connu l'épée espagnole, ils quittèrent la leur. Ils éludèrent la science des pilotes par l'invention d'une machine que Polybe nous a décrite. Enfin, comme dit Joseph, la guerre était pour eux une méditation, la paix, un exercice. Si quelque nation tint de la nature ou de son institution quelque avantage particulier, ils en firent d'abord usage. Ils n'oublièrent rien pour avoir des chevaux numides, des archers crétois, des frondeurs baléares, des vaisseaux rhodiens. Enfin, jamais nation ne prépara la guerre avec tant de prudence, et ne la fit avec tant d'audace.